Émission de littérature, Radio Campus Orléans, dernière ligne droite avec la philosophe et anthropologue Christine Berger. Nous allons parler de Super Phénix, déconstruction d'un mythe. Merci beaucoup d'être en direct avec nous par téléphone, Christine Berger.
Oui.
Alors ma première question, qu'avez-vous mis en place comme dispositif pour écrire ce livre Super Phénix, déconstruction d'un mythe?
Un dispositif, c'est-à-dire vous pensez à une méthode particulière
Voilà, la méthode.
Oui, d'accord.
La méthode de travail.
Méthode de travail. Donc, en fait, déjà, vous savez, une centrale nucléaire, c'est un objet un peu clos, enfin en apparence en tout cas, c'est une sorte de ville-machine géographiquement isolée, puisque Super Phénix, par exemple, est entre... il est au milieu d'une boucle du Rhône en Isère et que donc il est parmi les champs et les forêts, donc c'est un monde un petit peu isolé en apparence qui communique cependant avec le monde technique de toute la planète. Donc moi j'ai eu des entretiens libres avec des ingénieurs, des techniciens, des chimistes, des personnes assez variées, aussi celui qui s'occupait du pont tournant, c'est-à-dire la grue qui transporte beaucoup de choses. Et donc, j'ai fait un système de questions croisées pour observer cette population et cette machine qui occupe tout le monde. Et j'ai appliqué des aspects de l'ethnométhodologie, en fait, de Harold Garfinkel, déjà pour cerner ce qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire l'intelligence collective. Il y a vraiment une intelligence collective qui gère la métamorphose de Super Phénix. Et cette intelligence a un langage, les gens s'accordent tous sur des définitions particulières pour les termes qui peuvent être des termes ordinaires qui prennent un sens particulier. Par exemple, sur le site de Super Phénix, si on dit cet objet a vu du sodium, ça veut dire par exemple il a été en contact avec du sodium radioactif. Voilà, c'est un monde qui a ses procédures et ses codes d'action qui sont tout à fait explicites. Donc je me suis interrogée sur la façon dont on pouvait reconstruire cette intelligence collective au travail. Et puis j'ai essayé d'approcher aussi le sens précis construit par chacun, le sens de son travail et le sens de ce milieu et le sens que cette machine prend pour lui, en interrogeant non seulement bien sûr les gestes techniques et les valeurs conduites par la technique, mais vraiment d'une façon générale tout ce qui est aspect axiologique qui est impliqué dans la parole de chaque personne, alors que ça soit un chef de déchargement du cœur ou que ça soit un pontier qui descend avec une très grande hotte des choses dans le sodium, voilà. Alors la question, bien sûr, c'est comment distinguer si on a éventuellement un discours qui est tout fait. Ça, on peut pas vraiment toujours l'approfondir, cette question, mais en tout cas, voilà, essayer de dégager la signification pour chacun et pour cette intelligence collective.
Alors, j'aimerais que l'on commence par la fin de votre livre, oui. Par ce chapitre entre esthétique, éthique et mythologie.
Voilà.
Vous racontez votre rencontre avec Jacques Bonnard, qui est un des, oui. des architectes de Super Phénix, oui. Et vous le citez à un moment donné, il a cette phrase: « On m'a demandé de remédier à ce problème de perception. Il fallait faire œuvre de plasticien. » Et là, vous dites, juste après, « La question des formes et des perceptions n'a rien d'anodin. C'est même en prêtant attention à ces perceptions que l'on prend conscience de leur caractère instable. Lors de toute fermeture d'établissements d'envergure, hôpital, usine, etc., l'avenir devient indéterminé et les formes elles-mêmes deviennent flottantes, voire menaçantes. »
Voire menaçante, oui.
Alors c'est quoi cette rencontre avec Jacques Bonnard que vous faites presque à la fin de votre étude?
Oui, parce qu'effectivement, pendant très longtemps, vous voyez, ça pose des questions de mémoire très importantes. Pendant très longtemps, personne ne pouvait me dire où se trouvaient les architectes, ni s'il en existait encore, ni s'ils étaient encore en lien. Effectivement, il y a une mémoire qui est très labile. Les directeurs de Super Phénix se succèdent, restent quelques années. Donc ça a été très difficile de le trouver. Et quand on l'a trouvé, j'ai pris rendez-vous avec lui. Effectivement, je suis allée le rencontrer. Et je me suis rendu compte qu'en discutant avec lui, qu'il y avait, de même d'ailleurs qu'avec d'autres intervenants, que des aspects qui sont assez étonnants, comme la perception esthétique ou la perception artistique, ou parfois même disons l'imprégnation symbolique des lieux, notamment des aspects anthropomorphiques, des aspects sacrés, se développent d'une certaine façon, pas toujours avec la conscience claire de la part des individus qui sont complètement orientés vers l'action technique. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais on peut voir en discutant avec l'architecte que ces questions de forme avaient porté notamment sur un vécu très douloureux de la part des ingénieurs, d'une centrale qui est en déconstruction et donc un monde qui se démolit, un monde qui meurt. Ils avaient dessiné, ils avaient fait des dessins qu'ils avaient placardés, qui représentaient en fait Super Phénix, le bâtiment réacteur, avec une poignée comme si c'était une poubelle. Voilà, donc il raconte qu'on a bien cherché par la suite au niveau architectural à remédier à cette vision un peu, enfin on pourrait dire un peu psychologique, mais qui certainement déjà montrait quelque chose. Et donc il fallait y remédier par un apport architectural.
Parce qu'effectivement, il y a un problème esthétique. Oui. Ce problème esthétique, il est dans la conception de Super Phénix. C'est de ce dont vous venez parler, ce problème de poubelle. Et puis, il y a un problème de sa déconstruction également. C'est-à-dire que dans la conception de Super Phénix, l'architecture même de Super Phénix, vous expliquez bien, elle joue sur plusieurs registres qui en fait un objet, je vous cite, un objet saturé de symboles.
Oui,
et dans sa déconstruction, dans laquelle intervient aussi des architectes, il y a de l'ambiguïté, il y a une recherche de symboles, de symbolique, et il y a une richesse là-dessus de registres symboliques qui sont forts à la fois dans la déconstruction.
Alors, dans la construction, déjà, le registre symbolique le plus actif, si on peut dire, c'est que l'architecture elle-même est très imposante. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de tour de convection à Super Phénix. Hein. Il y a un immense bâtiment réacteur haut de 80 mètres, mais il n'y a pas de tour avec panache, il n'y avait pas de tour avec un panache blanc. Mais ceci dit, dans la problématique esthétique des centrales, l'aspect esthétique a été très important et ça rejoint parfois, sous certains aspects, l'architecture sacrée ou l'architecture militaire. Donc déjà, c'est une architecture ambiguë. Il y a un pouvoir très grand qui est à enclore, un petit peu comme serait, si vous voulez, une basilique ou une cathédrale sacrée. Et puis, d'autre part, il faut fortifier tout ça, et ça fait référence à une sorte d'esthétique militaire. Ça, c'est un premier registre. Alors, pour la déconstruction, c'est un petit peu le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'on a une machine et des hommes qui forment un monde en soi, qui travaillent sur une plateforme de 25 hectares. Et ce monde est en bouleversement. Les frontières changent. Ça, c'est très important. Et les objets sont déconnectés. On doit mettre hors service définitivement un ensemble de fonctions. Si vous voulez, c'est un peu comme un corps dont on déconnecte respectivement toutes les fonctions vitales. Donc l'identité des objets change. Et à ce moment-là intervient non seulement un changement d'identité de ces objets qui changent de forme puisqu'ils sont déconstruits, donc ils se défont. Mais en même temps, entre ces objets, au niveau des frontières et des lieux également, il y a une dissémination, si vous voulez, des matières invisibles potentiellement dangereuses sous forme de radioactivité. Donc d'une part, on a une dissémination des matériaux, puisque la centrale va se transformer en déchets et elle va se transformer en matière première. Et d'autre part, on a une dissémination aussi également des êtres qui travaillent, puisqu'il y a des missions qui sont accomplies par des intervenants qui arrivent, qui font leur travail et qui repartent. Donc c'est un monde qui se défait dans un certain ordre, hein, programmé bien sûr, mais qui est très difficile à maintenir au niveau de l'identité pour les acteurs.
Ce maintien de l'identité, cette difficulté à maintenir l'identité, ça nous ramène à un problème de mémoire. Alors, on a parlé du problème de mémoire, c'est cette difficulté à trouver les architectes de Super Phénix.
Oui.
ça vous en parlez long, enfin vous en parlez un petit peu quoi, que les architectes de Superphénix, et puis vous venez d'en parler, qu'ils sont restés longtemps, longtemps introuvables. Alors ça, c'est déjà curieux sur un site comme ça de ne pas avoir l'histoire de, enfin un historique de Superphénix. Ça vous a étonné?
Alors non, en fait, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire. Justement, il y aurait peut-être trop d'histoire. Je pense que comme toute population qui s'appuie énormément sur des documents, sur des protocoles et même d'une façon un petit peu, comment dire, à la fois rationnelle mais un peu angoissée également, je pense qu'il y a beaucoup de documents qui consignent quelque part donc des archives, si vous voulez, qui consignent cet historique. Et Bernadette Mahé, qui est donc la chargée de communication, était très efficace. Elle, très régulièrement, quand elle voulait répondre à une de mes questions, elle disait « je plonge dans mes archives » et elle trouvait les documents. Mais tout le monde n'est pas aussi rapide et organisé, on peut dire. Il y a des personnes que j'ai interrogées qui ne trouvaient pas les documents. Et je pense que c'est très difficile. Il y a des copies de documents, des photocopies. Il y a toute une salle de documentation dans laquelle je suis allée chercher de la documentation. Et donc, il y a au contraire énormément, si vous voulez, de matières sur lesquelles tout cela est consigné. Et je pense que remonter le temps, c'est quand même une histoire très, très ancienne, puisque ça remonte au début, en 1974, hein, tout début. Donc effectivement, une centrale comme Superphénix, une centrale en général, une centrale nucléaire, a une histoire de longue durée.
Alors ça, c'est le premier type de mémoire. Il y a une deuxième mémoire, moi, qui m'a surprise, enfin qui m'a vraiment étonné. Beaucoup de choses m'ont étonné dans votre livre, mais celle-là, c'est peut-être ce qui m'a le plus étonné, c'est la mémoire de l'action. Je vous cite. « Chaque intervention occasionne l'ouverture d'un dossier de consignation. » Celle-ci est la mémoire de l'action. Oui. Pour que puisse s'accomplir le travail demandé en toute sécurité, il fait en effet condamner en amont un certain nombre d'organes mécaniques ou électriques. Oui. Lorsque le travail est achevé, il faut déconsigner, remettre l'installation dans sa marche ordinaire. La mémoire des actions est ainsi sauvegardée. On garde une version papier et une version informatique, souligne Vanessa M. Tous les objets qui circulent ont une trace de leur trajet. Là, il y a une mémoire de l'action dans l'acte de déconstruire Superphénix.
Tout à fait. Donc effectivement, il y a dans chaque registre d'action des protocoles très précis qui sont accomplis et il y a à chaque fois une consignation de telle sorte que non seulement le travail que chacun a fait soit inscrit quelque part, mais également il faut penser à, si vous voulez, la circulation de l'objet tel qu'on vient de le modifier, c'est-à-dire que ça n'est pas un objet isolé, c'est un objet qui était connecté, et quand on le déconnecte, on doit laisser libre, si vous voulez, le lien des autres objets entre eux. C'est beaucoup plus difficile que de la chirurgie, à la limite. Si vous voulez, moi j'ai observé aussi dans le contexte médical et chirurgical et en réanimation, le corps humain garde sa forme, le corps humain garde son élan vital. Ici, il n'y a rien, si vous voulez, qui est vivant, et il faut garder vivant les choses avec une mémoire de protocole.
Alors cette trace. Ce problème esthétique, tout d'abord, ce problème de mémoire.
Oui.
J'ai rencontré un autre problème, un troisième problème, outre l'esthétique et la mémoire, mais l'esthétique est physique, la mémoire aussi est presque palpable, mais quelque chose qui est impalpable, quelque chose qui est invisible. Oui. J'ai trouvé qu'il y avait un problème avec l'invisible, forcément, puisqu'on est dans le nucléaire. Je vous cite à nouveau, vous écrivez « Les éléments et les matières irradiées demandent une manipulation délicate de catégories à la fois symboliques et techniques. » Là encore apparaît en filigrane la question du contact avec quelque chose d'invisible, puissant, ambigu car porteur de vie et de mort, et qui appartient au registre du sacré. La négociation du rapport avec cet invisible est manifeste, que ce soit à travers la rationalité des processus de travail ou dans l'ensemble des chaînes de vérification qui accompagnent les opérations de déconstruction. L'invisible a donc sa mesure, puisque les appareils qui enregistrent les débits de doses radioactives en présentent une traduction chiffrée. Comment les hommes composent avec cet invisible?
Oui, ça c'est vraiment une partie qui m'intéresse beaucoup. Il y a l'invisible qui est mesurée par des machines, c'est-à-dire que ce qui n'est pas visible est rendu visible sous forme de doses chiffrées. Donc on peut avoir l'impression qu'on maîtrise quelque chose. Donc on s'attache beaucoup dans le monde nucléaire et sur le terrain, les gens s'attachent à la lecture de dosimètres, par exemple. Et puis tout cela est consigné également. Votre dose, la dose que vous avez reçue, par exemple, ou qu'un travailleur a reçue, est archivée elle-même. Le travailleur a un dossier. Donc on a d'une part tout un ensemble de traces qui sont inscrites et qui permettent un chiffrage et un déchiffrage. Mais on a aussi tout un ensemble de barrières qui sont mises contre cet invisible sous forme de balises de sécurité. C'est-à-dire que là, quand l'invisible, l'impalpable va se manifester, il va se manifester sous forme de sonnerie, par exemple. C'est-à-dire une trace de radioactivité qui va faire fonctionner un appareil qui est un avertisseur. Et qui va lui-même donner, si vous voulez, l'idée d'un franchissement de frontières, même si la frontière a été matérialisée, par exemple, par des cordes ou par des couleurs ou par des dispositifs qui encadrent un chantier. Donc, on a une deuxième lecture de, comme si vous voulez, on essayait d'organiser une sensorialité de la machine ou une sensorialité de la centrale. On a un deuxième type de traces qui vont être enregistrées sous forme de son, par exemple. Et puis il y a un type d'invisible qui n'est pas vraiment perceptible et qui d'ailleurs on vous explique très bien quand vous sortez de la centrale ou quand vous passez dans les détecteurs de radioactivité, par exemple quand on est habillé ou déshabillé ou même quand on sort complètement de la centrale pour aller dehors, eh bien il peut y avoir des poussières radioactives qui se sont déposées sur vous. Voilà, donc ces poussières, vous pouvez les avoir sur vos vêtements, vous pouvez les avoir inhalées, vous pouvez les avoir respirées, vous pouvez les avoir avalées. Et là, il va falloir vous faire passer dans des systèmes de machines qui vont étudier le degré de contamination. Donc cet invisible, là encore, on essaie de le traquer le plus loin possible. Et puis, il y a finalement l'aspect invisible dans l'invisible, c'est-à-dire que ce qui n'est pas visible provoque des réflexions, des peurs, des attitudes qui montrent qu'on cherche à gérer cet invisible qu'on ne peut pas traquer très très loin finalement.
Pour terminer, j'aimerais savoir ce qui vous a fasciné dans cette enquête, hein, parce que là, on a parlé d'invisible, mais il y a aussi le massif. Oui. Super Phénix est un authentique monstre, oui. 200 000 mètres.